Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Nous sommes actuellement sur la radio Graphite 94.9 et je suis en compagnie aujourd'hui de 7 autres étudiants de l'Université technologique de Compiègne pour répondre à l'émission Les échos de l'innovation. Dans cette émission, on va chercher à répondre à un projet qu'on a à faire à travers l'UTC qui cherche à répondre à la matière SI1 qui est Sciences et débats publics. Et à travers cette matière, on cherche à débattre, à répondre aux questions actuelles qui prônent notre société, qu'elles soient au niveau technologique ou sociétal. Avant de parler de notre émission, on va faire un petit tour de table pour se présenter.
Bonjour à tous, moi c'est Clément et donc je suis en première année à l'UTC en génie urbain et auparavant j'étais en classe préparatoire.
Bonjour à tous, je m'appelle Ben Khan, je suis étudiant à seconde année à l'UTC.
Bonjour, je suis Daniel, je suis brésilienne, j'ai fait mon double diplôme ici à l'UTC.
Bonjour, je suis Simon, en troisième année à l'UTC et en branche mécanique.
Salut à tous, moi c'est Thibaut, je suis à l'UTC depuis 3 ans et je suis également comme Clément dans la branche génie urbain.
Bonjour à tous, moi c'est Quentin, j'ai 19 ans et je suis arrivé à l'UTC il y a un an et j'aspire à aller dans la branche génie informatique.
Rebonjour, moi je suis Léa et je suis actuellement en première année post-bac à l'UTC.
Bonjour, moi c'est Mohamed, je suis au premier semestre à l'UTC.
Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur un sujet qui nous semble très intéressant et très important et qui mérite d'être posé dans la société actuelle. En effet, après la pandémie du Covid, ou alors après les nombreux rapports du GIEC qui sont apparus dans notre société il y a peu de temps, on peut remarquer que la science joue un rôle primordial dans nos vies. En nous prévenant et en assistant les gouvernements, elle semble chercher à nous protéger, voire même à nous gouverner par sa propre manière. Dès lors, comment doit se positionner la science pour guider les décisions politiques ? Je vais laisser la parole à Daniel et à Khan pour introduire ce sujet.
Bon, merci Léa. Donc, ces dernières années, on constate que le nombre de personnes de différentes nations, de différents groupes politiques et ethniques qui ont désaccrédité la science a augmenté. Mais comment expliquer cette augmentation ? Les chercheurs et les centres de recherche du monde entier font-ils vraiment un travail de tout ? Donc, certainement, le scepticisme envers le fait scientifique pouvait n'est pas quelque chose de nouveau. Mais il est vraiment possible de dire que nous vivons un moment où la science traverse une crise de confiance de la part de la population mondiale. L'Internet est un vecteur rapide et extrêmement efficace de vulgarisation de tout type de données, vraies ou non, opinions ou faits. Certaines explications du phénomène actuel proviennent des fake news et des théories du complot ou complotisme qui, avec l'avènement de l'ère technologique et l'augmentation des informations disponibles dans les médias numériques, ont été diffusées de plus en plus rapidement. Un autre point à prendre en compte est que la connaissance scientifique est devenue une cible fréquente d'attaques qui sont créées à partir de croyances, d'intérêts politiques et ou économiques contrariés, ou simplement pour un faible niveau d'éducation du public en question. Pour se faire une idée, en 2019, un sondage d'opinion réalisé par le site de recherche statistique Statista a montré que seuls 35% des Français avaient une confiance totale dans la science. 58% lui faisaient confiance, mais avec quelques doutes, et presque 7% avaient peu ou pas de confiance. Cependant, il est nécessaire que nous regardions l'autre côté de cette situation. La science et la technologie s'insèrent de plus en plus dans notre vie quotidienne. Il y est parfois difficile d'analyser et de comprendre toutes les informations qui nous sont injectées quotidiennement. Face à plusieurs exemples qui provoquent le désaccord, les peurs et les doutes dans la société en général, nous pouvons mentionner ici l'augmentation du doute autour de la crise sanitaire de la pandémie du Covid-19. Les mouvements anti-masques et anti-vaccins, par exemple, pour le deuxième cas, la question était de savoir comment le vaccin était fabriqué, selon certains groupes politiques et gouvernementaux, de façon très rapide. Quelques questions, entre guillemets, est-ce que c'est sans danger pour l'homme? Comment un vaccin a-t-il pu être mis au point en moins de 2 ans, alors que pour tous les autres vaccins, il faut près de 10 ans de recherche et d'amélioration? Eh bien, à partir de questions comme celle-ci, et la diffusion de la libre opinion et de certains contextes, l'imaginaire social est poussé au délire. L'être humain aspire à l'information, pas nécessairement à la connaissance d'un fait. Et lorsqu'elle est ajoutée à ses propres convictions, croyances et connaissances, nous parlons certainement de connaissances empiriques à ces stades-là. Nous obtenons comme résultat une position qui peut être contraire à ce qui dit la science. Il n'est donc pas surprenant que la résistance au consensus scientifique se soit accrue pendant la pandémie jusqu'à aujourd'hui. D'autres points que nous pourrions citer seraient, par exemple, l'utilisation d'éléments génétiquement modifiés, une discussion qui dure presque depuis les années 2000, et aussi l'actuelle technologie 5G. Comme on l'a dit, la science fournit chaque jour de plus en plus de choses à penser. Donc alors, comment continuer? Malheureusement, le monde se développe avec des dangers réels imaginaires et il est certain que la société a de plus en plus de mal à distinguer les uns des autres. Selon la célèbre chercheuse américaine Marcia McLuhan, la science n'est pas un ensemble de faits. La science est une méthode permettant de décider ce que nous choisissons de croire et fonder ou non sur les lois de la nature. Toutefois, comme elle le sait, cette méthode n'est pas naturellement acceptée pour la plupart des gens. C'est la raison pour laquelle nous devrons chercher des données concrètes et fiables pour fonder nos croyances et décider de nos opinions. Malheureusement, l'actuelle ère de l'information comporte beaucoup de d'informations et d'incohérences. Nous devons empêcher cela pour arriver à des vraies vérités. Après tout, les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent affecter non seulement notre vie, mais aussi celle des générations suivantes. Donc, pour finir, je voudrais terminer cette introduction au sujet par une phrase qui peut illustrer le scénario français actuel. Au fond, jusqu'aux années 2000, la science était objet de fierté, de fascination et de crainte. Aujourd'hui, seul reste la dernière de ses caractéristiques. Cette citation a été prononcée par Nicolas Mazzucchi, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci.
Merci, Daniel. Selon moi, en général, après avoir été complètement libéré, le Vietnam est considéré comme ayant accès à la technologie au début des années 1990. Le thème de recherche, d'invention et d'application n'a pas été assez long, mais les Vietnamiens ont une vision complètement optimiste et font confiance à la technologie. Malheureusement, alors que l'expérience et l'expertise ne suffisent pas, beaucoup de gens préfèrent les produits étrangers. Et pourquoi? Je pense que c'est parce que les produits étrangers sont meilleurs à qualité et à durabilité. Au pic, en 2018, le Vietnam était le troisième pays consommateur de produits importés, derrière les l'Indie et la Chine. Mais cela ne signifie pas que les Vietnamiens boycottent la technologie domestique. Les entreprises et leurs marques ont suivi le rythme de la technologie contemporaine et évolue constamment. Par exemple, lors de la récente épidémie de COVID, le kit de test COVID du Vietnam a été bien apprécié des scientifiques et largement utilisé dans le monde. Alors, je pense que c'est une bonne occasion d'affirmer la croyance du peuple vietnamien dans la technologie domestique.
Merci beaucoup, Can et Daniel, pour ces constats. Maintenant, je vais laisser la parole à Clément, Thibault et Mohamed pour nous parler des différentes causes de la méfiance et est-ce vraiment légitime de douter de la science ou non.
Donc, rebonjour à tous. Avant de rentrer dans la question centrale un peu de notre émission, qui est les interactions entre le monde scientifique et la décision politique, on a décidé un peu de s'intéresser au contexte qui prévaut un peu avant la décision politique et surtout de se demander, du coup, avec le constat qu'a amené Daniel, du coup, ce constat de forte méfiance croissante vis-à-vis de la science, on a décidé de se demander pourquoi on pourrait douter de la science. Est-ce que c'est fondé d'en douter et est-ce qu'on peut trouver des bonnes raisons d'en douter, tout simplement. Et donc c'est vrai que dans un premier temps, avec ce qu'a dit Daniel, la réflexion qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que la méthode scientifique et surtout que la recherche scientifique se donne pour objectif d'accéder à la vérité, trouver une vérité. Donc de distinguer d'un côté les croyances et de l'autre côté les connaissances. Et c'est vrai qu'avec cette réflexion, on en déduirait que le doute est tout simplement illégitime parce que on peut pas douter de la vérité. C'est amené, c'est entre guillemets prouvé. Et d'ailleurs, pour amener des preuves sur un problème et donc du coup sur un fait, les scientifiques se basent sur des expériences, des calculs, des simulations. Et avec tous ces outils, ils s'assurent que les résultats qu'ils ont soient répétables. Donc, c'est-à-dire qu'ils changent les conditions un peu de leur expérience et ils essayent d'observer les mêmes résultats. Et du coup, avec tous ces outils, surtout, on arrive à ce que l'ensemble des scientifiques du monde entier, en fait, il y a un certain consensus sur certaines théories, certains résultats, et c'est ce qui nous permet ensuite d'élever ces résultats comme de grands théorèmes, de grands axiomes. Et du coup, ce qu'on peut affirmer là, comme on est aujourd'hui, c'est que la science, elle nous offre une prise sur la réalité qui est vraiment ce qu'on peut trouver de mieux. Ça, il y a aucun doute. Mais je vous ai parlé juste avant de la méthode scientifique. Est-ce que, au-delà de ça, on ne pourrait pas se demander qu'est-ce qui nous garantit justement que la science a raisonnablement plus de chances de nous dire la vérité que quelqu'un d'autre, que je sais pas moi, quelqu'un d'autre de votre entourage. Comment on l'explique? Et en fait, pour répondre à cette question. Lors de mes recherches, j'ai pu essayer de me focaliser sur deux raisons qui sont un peu imbriquées. La première raison, c'est que tout simplement, le modèle de fonctionnement de la science avec des théories et des hypothèses, il nous assure que, en fait, une fois qu'une théorie est avancée, elle va derrière être critiquée. Et c'est comme ça, en fait, qu'on progresse en science. Donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est un peu l'idée qu'a développée un philosophe des sciences qui s'appelle Karl Popper, qui a théorisé ça sous le nom du falsificationnisme. Donc, en gros, la logique de la science, c'est que à chaque fois qu'on aboutit à une proposition scientifique, elle va être délivrée au monde scientifique et faire l'objet de critiques, de remises en question, qui vont parfois donner lieu à des expériences. Et ces expériences vont même parfois réfuter cette proposition de départ. Et donc c'est à force de taper sur ces théories, sur ces propositions, les refaire, les reconstruire, qu'elles ont en fait le plus de chances d'être robustes. Donc c'est-à-dire de se généraliser et de ne plus pouvoir être mises en question. Une deuxième raison que j'ai pu trouver, c'est tout simplement... Le fait qu'en fait la science et le monde de la science, c'est un processus social dit collectif. Donc ça, ce terme, il vient pas non plus de moi, il vient en fait tout simplement d'un sociologue des sciences qui s'appelle Robert Merton et qui insiste, lui, sur le fait que les savants, les scientifiques, sont finalement des gens comme les autres. Ils sont pas forcément meilleurs ni plus intéressés par la vérité que les autres êtres humains. Mais ce qui fait que qu'ils ont cette capacité à produire des énoncés plus vrais que les autres, ça vient en fait tout simplement de l'organisation sociale du monde scientifique qui nous assure en fait qu'il y aura une critique. Et c'est pour ça que Robert Merton, il emploie ce terme un peu général de scepticisme organisé. Donc scepticisme parce que derrière, effectivement, il y a l'idée de critique. Et pour illustrer un peu ce que je viens de dire, en fait, je vous invite, par exemple, tout simplement à penser aux lieux ou aux forums ou aux institutions scientifiques qui sont consacrées à la discussion et au débat. Par exemple, tout simplement, si on réfléchit, le GIEC, c'est une instance qui nous assure qu'il y ait de la critique et du coup, qui nous assure que les propositions vont être débattues et parfois remises en question. Et donc, comme ce que je disais au départ, avoir plus de robustesse. Donc, c'est des institutions où les scientifiques vont pouvoir interagir avec leurs pairs. C'est pour ça qu'on a le terme anglais « peer reviewing ». Donc, après, ce que je viens de dire, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne peut vraiment pas douter de la science. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez été forcément très attentif à ce que j'ai dit, mais il reste peut-être une faille. En fait, tout simplement, on peut se demander si... est-ce que le scepticisme organisé dont j'ai parlé ne peut pas être mal fait? Et donc, du coup, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la recherche scientifique soit biaisée envers tel ou tel résultat? Pour ça, je pense qu'on va pouvoir écouter Clément.
Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, c'est vrai que la science, c'est quelque chose de rigoureux. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que la science démontre, c'est fiable. Mais malheureusement, en fait, la science, elle a été créée pour répondre aux besoins de l'industrie. Et donc, dans certains cas, l'industrie, elle a utilisé la science pour occulter certains problèmes. Et je vais vous parler d'un exemple. C'est un exemple que j'ai vu dans un reportage d'Arte, que je vous conseille. Hein, c'est la fabrique de l'ignorance. Et dans ce reportage, il montre toutes les dérives que l'industrie a utilisées pour rendre moins fiable la science. Et donc, cet exemple, c'est celui du tabac. Donc, on sait aujourd'hui que le tabac, c'est dangereux. Mais le problème, c'est que dans les années 50, ils savaient déjà... Et plus particulièrement en 1953, il y a des scientifiques qui ont réussi à montrer que le goudron provoqué par la fumée de cigarette, ça pouvait provoquer des cancers. Et donc là, forcément, problème pour les industriels. Ils se disent bah, comment on va faire pour vendre un truc si c'est dangereux, quoi. Et donc, ils vont décider de se réunir ensemble, les plus gros cigarettiers. Donc, il y en avait 7 à l'époque. Et ils vont discuter de ça. Et eux, ils savent le problème. Ils savent qu'effectivement, la cigarette, c'est dangereux. Et donc, ils vont dire... Dans une déclaration dans la presse, ok, on se rend bien compte que la cigarette c'est dangereux et donc on va aider la science en finançant des programmes de recherche. Donc ça part d'une bonne idée, sauf que le problème c'est que, effectivement, vu qu'ils vendent des cigarettes, ils vont pas financer des recherches qui montrent que la cigarette c'est mauvais pour la santé. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont financer un grand nombre de recherches pour trouver plein de causes, plein de raisons différentes au cancer du poumon. Et donc, ça va créer un doute, vu que finalement, la cigarette, ça sera une des raisons, parmi tant d'autres, pour développer un cancer des poumons. Et donc, ce n'est pas plus dangereux de fumer que de faire autre chose. Et d'ailleurs, dans ces recherches qu'ils vont financer, il y en a qui seront effectivement utiles, vu qu'ils vont faire des recherches sur notamment l'amiante ou sur les maladies cardiovasculaires. Donc là, ça sera utile. Par contre, ils vont financer des recherches un peu plus, on va dire, originales, comme sur les liens entre le jus de tomate et le cancer du poumon, ou la calvitie et le cancer du poumon. Et tout ça, c'est fait en fait pour créer le doute, pour éloigner le vrai problème qui est la cigarette. Et c'est un problème, parce qu'en science, le doute, la science, elle vient du doute. On fait des recherches, on cherche des choses parce qu'on doute, parce qu'on ne sait pas répondre à une question. Donc le doute, il n'est pas mauvais en soi en science, mais il est mauvais dans cet exemple-là, parce que le doute, il est fait pour... qu'on sache plus déterminer ce qui est vrai ou faux et qu'on s'éloigne du vrai problème.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Clément et un peu appuyer aussi ce qu'il vient de dire, donc en gros, un peu derrière ce qu'il a dit, c'est que, en fait, malheureusement, la science, elle est parfois tout simplement sous la force d'une contrainte. En fait, ce qu'il a expliqué avec l'exemple du tabac, c'est que les grands industriels du tabac, ils ont, entre guillemets, fait marcher leur pouvoir pour essayer d'aller démarcher les scientifiques et avec des promesses de financement, ils ont réussi à développer des études sur d'autres sujets qui permettaient, en fait, tout simplement de noyer le poisson. Et du coup, ici, le poisson que représente le danger du tabac. Donc toujours pour appuyer cette idée que la science est parfois sous la force d'une contrainte, on peut aussi s'intéresser à la liste des domaines scientifiques qui sont explorés aujourd'hui et le budget qui leur est attribué. Et pour ça, j'aimerais m'appuyer sur une citation d'une historienne des sciences qui s'appelle Naomi Oresk, qui dit qu'aujourd'hui, la science ne se heurte plus à l'Église, mais à l'économie de marché. Tout comme la religion d'État en son temps, l'économie libérale peut interdire une recherche, tout simplement en ne la finançant pas. Donc ce qui se cache derrière cette citation, c'est que tout simplement l'économie aujourd'hui est devenue la nouvelle autorité difficile à contester. Et comme au temps où la religion faisait peser des contraintes sur la science, et bien maintenant c'est l'économie qui va faire peser de nouvelles contraintes sur le monde scientifique. Et donc par contrainte, en fait, ce que j'entends ici, c'est l'emprise que va pouvoir avoir l'économie. Donc ce que j'entends par là, c'est tout simplement, par exemple, le fait que l'économie actuelle, en fait, elle va valoriser et privilégier la science qui permet le profit, la science qui peut être monétisée et donc qui représente une activité lucrative. Et donc ça implique forcément que les chercheurs, ils vont devoir chercher à générer de l'argent et surtout chercher à se faire financer, à en trouver. Et donc si on continue un peu cette progression, forcément, on peut facilement déduire qu'il y aura une compétition entre les chercheurs et les laboratoires, parce que c'est à celui qui s'attirera le plus d'investissements. Et d'ailleurs, au passage, on peut se demander si cette notion de compétition n'est pas malsaine. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, dans le monde de la science, on s'attend plutôt à une coopération, entre guillemets, de la solidarité entre les scientifiques, parce que parfois, ils étudient dans les mêmes disciplines. Et donc, c'est vrai que ça peut parfois être peut-être malsain, cette compétition. Et toujours dans cette idée de compétition, en fait, la compétition, elle va orienter la science vers une certaine direction. Surtout parce qu'il y a aussi un effet de mode qui existe en science, c'est-à-dire qu'il y a des domaines de recherche, un peu en fonction des périodes, qui vont attirer beaucoup plus les investissements que les autres, parce qu'on leur donne priorité, parce qu'on sent qu'il y a, entre guillemets, du profit à faire derrière. Si vous ne voyez pas forcément de quoi je veux parler, je vous invite par exemple à imaginer aujourd'hui quels pourraient être les sujets qui sont, entre guillemets, un peu tendance en science. Et si je vous dis intelligence artificielle, biotechnologie, je pense que ça va tout de suite un peu vous faire tilt. Et donc, puisqu'il y a des sujets qui sont priorisés pour le profit, automatiquement, de l'autre côté, il y a des sujets qui sont complètement abandonnés et qui sont même parfois encore inconnus de l'humanité. En fait, ils sont en quelque sorte en jachère parce qu'on les estime moins rentables. On sait que, enfin, on estime que si on commence à faire des recherches là-dedans, ça va rien nous rapporter. Donc, tout cet ensemble de disciplines qui sont négligées, en fait, c'est ce qu'on appelle la science non faite. Et donc, je vous invite de votre côté à faire un peu des recherches sur la science non faite pour bien comprendre de quoi on parle ici. Et surtout, en fait, le fait que cette science ne soit pas menée, ça veut dire qu'elle nous maintient dans l'ignorance. Et donc, on pourrait dire que ça va à l'encontre un peu de l'objectif de la science qui veut établir la vérité sur tout et qui se veut médiatrice entre l'homme et la nature, comme aiment à le dire certains chercheurs. Donc, c'est une raison un peu de remettre en cause cette science et de se rendre compte que... Effectivement, il y a, entre guillemets, des vices cachés.
Les raisons qu'ont évoquées Thibaut et Clément juste avant viennent du monde de la science en lui-même et du fait qu'il soit contraint par la société. Il faudrait donc aussi parler des raisons qui nous font douter, qui viennent de nous-mêmes, de notre identité d'être humain. De nos jours, la science n'est plus une discipline réservée à quelques praticiens comme elle le fut autrefois. La science est étendue à bien des domaines. Des dizaines de milliers de personnes en font leur métier dans tous les pays à travers le monde. La science est devenue plus que jamais une institution bien organisée et d'utilité publique, souvent en lien avec l'État qui la finance. Elle revêt donc un caractère de vérité officielle. C'est précisément cette institutionnalisation de la science qui pourrait rompre le lien de confiance qu'elle possède avec une partie de la population. Les sources d'informations sont aujourd'hui nombreuses, et il serait naïf de penser que la population ne s'informe que par le biais de chaînes de télévision ou des grands journaux. Avec la montée des réseaux sociaux, de plus en plus de gens se tiennent informés de l'actualité mondiale grâce à des réseaux comme Twitter ou Facebook. La multiplication de ces sources d'informations entraîne une prolifération de ce qu'on appelle des fake news ou encore des théories du complot. Et ce, car comme expliqué dans l'émission précédente, les algorithmes de ces sites sont faits pour que l'on tombe sur du contenu que l'on regarde déjà, on peut très rapidement se trouver enfermé dans une bulle idéologique où l'on ne discute qu'avec des gens qui ont les mêmes opinions que nous. Ainsi, de nos jours, 35% des Français croient aux théories du complot et 79% des Français croient à au moins une théorie du complot, révèle une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et de l'Observatoire Conspiracy Watch. Ainsi, en France, la population perd confiance en l'État et en ses institutions. Et comment ne pas évoquer la crise du Covid où Olivier Véran, ministre de la Santé, nous disait que les masques étaient inutiles après entrevue avec son conseil scientifique, puis qu'il a rendu obligatoire 2 mois après, moment à partir duquel l'État pouvait fournir des masques à tous ses citoyens. On peut aussi évoquer les dires du président Emmanuel Macron, qui a annoncé qu'il ne rendrait pas la vaccination obligatoire, puis qu'il a rendu pratiquement obligatoire 1 mois plus tard sous couvert d'un pass sanitaire pour toute personne souhaitant mener une vie normale. Avec la crise du Covid, c'est non seulement la confiance en l'État qui s'est vu faiblir, mais aussi la confiance en la science, car l'État jouait de la science pour cacher une panique citoyenne d'une crise de cette envergure. De plus, l'opposition entre le conseil scientifique et le professeur Didier Raoult, par exemple, que certains voient comme un antisystème qui va à l'encontre de la masse scientifique contrôlée par les lobbies des laboratoires, selon les dires de certains, le célèbre virologue Luc Montagnier, mis à l'écart par la communauté scientifique depuis 10 ans, mais qui, fort dans ses distinctions et de son prix Nobel, prend des positions anti-vax. Dans les deux cas, sans juger de la véracité ou non des propos des deux scientifiques, on constate que leurs thèses ont beaucoup séduit les milieux populistes sur les réseaux sociaux, au sein des groupes complotistes, et séduisent toujours de plus en plus de monde puisqu'ils opposent tous deux au système qui contrôlerait la masse médiatique, l'argent qui contrôle le monde scientifique et la politique. On remarque donc bien que le lien entre science et l'État est néfaste à la science, car quand personne ne croit en la fiabilité de l'État. Enfin, on pourrait penser que la science devrait être une vérité absolue, mais ce n'est pas ce qu'elle est. Il est certes nécessaire que la population accepte la primauté de la science sur des opinions, cependant, il est nécessaire de rappeler que la science est constamment remise en cause par les scientifiques eux-mêmes, en particulier sur des sujets comme la santé, la biologie et certains aspects de la physique. La connaissance dont dispose l'humanité aujourd'hui n'est que le cheminement de découvertes, d'interprétations, de remises en question, de théories qui s'efforcent toujours de plus en plus pour renforcer leur fondement par des faits irréfutables. Comme le dit Guillaume Carnino, l'activité scientifique, c'est tout sauf un grand assentissement général où tout le monde est d'accord. Les scientifiques passent leur temps à être en désaccord sur différents points, et c'est d'ailleurs comme ça que la connaissance peut avancer. La contradiction est une bonne chose, qu'elle vienne du peuple ou du milieu scientifique. Cependant, il est nécessaire qu'elle soit toujours basée sur des faits. C'est précisément le problème. Comment se mettre d'accord sur la nature même des faits si, selon un sondage de l'Ipsos en 2019, 2/3 des Français font moins, voire plus du tout confiance à la télévision et à la radio. Et plus d'un Français sur 4 affirme faire davantage confiance à une information venue d'un proche. Donc vous auriez beau tenter d'établir de base saine à un débat intellectuel, à de la contradiction scientifique, si les deux parties ne font pas confiance aux mêmes chiffres, c'est inutile. Ainsi, pendant la crise de la Covid-19 et avec la généralisation du vaccin en France, les débats devenaient de plus en plus houleux entre les anti-vax et les pro-vax. L'un affirmant qu'il y avait plus de vaccinés hospitalisés et réfutant les chiffres officiels des agences régionales de santé, l'autre affirmant l'inverse. La confiance en la science passe d'abord par la confiance dans les institutions primaires de la société, l'État, les entreprises. Cela semble difficile quand on peut apprendre que 46% des experts de l'autorité européenne de sécurité des aliments seraient dans une situation de conflit d'intérêts financiers direct ou indirect, selon l'ONG Corporate Europe Observatory. Pour quelqu'un qui perd déjà confiance en la science, ce genre de révélation peut être un déclencheur. Ainsi, le lien entre certaines institutions publiques et étatiques altère la confiance que la population place en la science.
Donc, on va maintenant devoir passer à la deuxième partie de notre émission. Je vais laisser la parole à Léa.
Alors, oui, du coup, on va passer à la seconde partie de l'émission. Mais avant, on va juste faire une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après.
Things we all know, fighting off the disease, programming.
Bonjour et rebonjour à nos chères auditrices et auditeurs. Nous sommes actuellement sur la radio Graphite 94.9 et je suis actuellement accompagnée de 7 étudiants de l'Université technologique de Compiègne afin de vous partager nos avis dans l'émission Les Échos de l'innovation. Avant de ce petit intermède musical, nous avons parlé de l'augmentation de la méfiance envers la science et la légitimité ou non de pouvoir douter de cette science. Mais toutes ces réflexions ont permis donc de nous mener à nous poser donc plusieurs questions et plusieurs pistes de réflexion. Mais il nous a aussi semblé intéressant de pouvoir directement interroger les personnes qui vivent dans notre société pour avoir des avis beaucoup plus concrets. C'est pourquoi on a fait un micro-trottoir à Versailles, dans lequel j'ai interviewé une dizaine de personnes de tranches d'âge complètement différentes, allant de 18 à 70 ans et de catégories socio-professionnelles bien distinctes, puisque du coup j'ai voulu bien diversifier entre des personnes qui avaient fait des études scientifiques et d'autres des études littéraires pour avoir des avis plus ou moins divers. On va donc vous présenter le micro-trottoir. En face de moi, je suis face à une étudiante qui s'appelle Charlotte. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Je suis Charlotte André, j'ai 19 ans et je suis en école, je suis en classe préparatoire en PCSI et je suis en SUP, donc ma première année de PC.
Ok, merci. Par rapport à notre émission, j'aimerais te poser la question suivante. Est-ce que tu penses que les avis scientifiques actuellement et après tout ce qui s'est passé au niveau du Covid, etc., sont-ils assez pris en compte dans les décisions politiques ou justement pas assez, ou justement ils devraient être beaucoup plus pris en compte ?
Je pense que la science a un grand impact de nos jours et c'est une source très fiable. Souvent, on associe la science à la vérité, ce qui est en quelque soit c'est assez vrai dans le sens où la science s'est basée sur des faits scientifiques, sur des expériences scientifiques et que forcément la plupart des choses sont vérifiées par d'autres scientifiques. Donc la plupart des choses qui sont dites par des scientifiques sont vraies. Après, je pense que dans les décisions politiques de nos jours, dans le Covid, la science a quand même eu un grand impact et on en a beaucoup entendu parler. Donc je pense que oui, la science a bien été entendue pendant, par exemple, la crise du Covid. Et je pense pas qu'elle aurait eu tant besoin d'être plus écoutée que ça parce que je pense que justement, là, on a vu combien la science, il y avait des avis différents. Et ce qui est normal en science, que tout le monde a un peu mis son grain de sel, tout le monde disait des théories différentes. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut écouter la science, mais il y a quand même on ne peut pas jusqu'à un certain point quand même. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, par exemple, par beaucoup de scientifiques qui étaient fausses et d'autres qui sont vraies. Et c'est pour ça que c'est important en science de quand même aussi avoir un avis critique. De pas oublier que la science, même si quelqu'un prouve quelque chose, il faut pas oublier qu'en fait il faut aussi le reprouver par d'autres scientifiques et que si elle n'est prouvée qu'une seule fois, ça ne veut pas dire que c'est tout de suite vrai. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut écouter la science parce que beaucoup de choses sont vraies, mais qu'il faut pas non plus écouter tout et n'importe quoi.
Merci beaucoup.
Pour ma part, je pense pas particulièrement que ce genre de conseil scientifique soit pris en compte, elle l'est sans doute partiellement, mais c'est certainement pas ça en fait qui va emporter la décision. Le fait est que les politiques sont, à mon sens, éclairées par un conseil scientifique plutôt de qualité. Vous avez parlé de l'environnement tout à l'heure, je pense que si vous voulez, les décisions du GIEC, tout ça, ils sont parfaitement au courant de ce que c'est. Après, on ne peut pas réduire la politique à la science. De fait, on ne vit pas dans un monde tel que celui-là, et la politique, c'est des décisions qui sont prises en fonction d'une multiplicité de paramètres. La science était le seul étalon de ça, ça serait, et ça serait par ailleurs pas forcément démocratique aussi. Oui. C'est ça qu'il faut prendre en compte.
Ok, merci beaucoup.
Est-ce qu'elles sont trop prises en compte dans les décisions politiques ou là, dans le cadre de notre élection ?
Dans le cadre de notre élection, même de manière générale, là, maintenant, ou il y a 5 ans, ou est-ce que plus tard, vous verrez avoir des scientifiques au gouvernement, etc.
C'est important qu'il y ait des scientifiques au gouvernement, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit la seule raison de notre décision. Après, je pense que là, en ce moment, oui, le Covid a pris une place énorme. Il y a aussi toute l'écologie, plein de choses. Mais je pense que c'est important puisque c'est oui la science elle fait part intégrante de notre vie de tous les jours et donc c'est mais je pense que la réalité c'est que les élections là n'ont pas du tout été prises en compte pour des raisons de sciences ou autres. Elles ont surtout été prises en compte pour des raisons plus d'éthique ou de morale, ou même juste de commercial, voilà, pour, à cause des candidats qui sont présentés. Voilà. Ok, merci.
Je pense qu'ils sont malheureusement trop pris en compte dans la vie politique. C'est-à-dire qu'en réalité, ça permet aux politiques de se défausser, de prendre des décisions qui ont une assise en apparence objective, mais qui en réalité peut être remise en cause, puisque la science n'est pas la connaissance absolue, c'est un état de connaissance subjectif à un instant donné. Donc susceptible d'être mis en cause par une autre analyse, susceptible d'être mise en cause dans le temps, et qui n'est pas forcément adaptée à l'instantanéité d'une décision nécessaire de la part d'un responsable politique qui doit mesurer normalement toutes les dimensions, qui doit prendre en considération le problème sous tous ses angles avant de prendre une décision éclairée.
Ah bah écoutez, moi je pense que sans la science, on n'est rien aujourd'hui. Enfin, qu'on doit continuer à faire confiance à la science, justement par rapport à toutes ces fake news qui peuvent perturber notre jugement et... Enfin, nos jugements, déjà. Le jugement n'est pas le bon mot, parce que la science est factuelle, donc moi, je pense qu'on doit continuer à s'appuyer sur les éléments factuels de la science pour prendre des décisions. Et puis après, on sait que dans cette période très compliquée qu'est le Covid, j'aurais pas aimé être à la place des politiques pour prendre la bonne décision économique face à une vérité scientifique qu'on se doit d'écouter pour la sécurité de la population.
D'accord, voilà. Merci.
Personnellement, je trouve que c'est assez pris en compte. En tout cas, de ce que j'ai vu, je ne suis pas la plus renseignée, mais je pense que c'est pris en compte. Parce que j'avais comme exemple, j'ai l'impression en tout cas que Macron a pas mal écouté les rapports de scientifiques pour prendre ses décisions par rapport au Covid. Après, est-ce que c'est assez? Je ne sais pas. En plus, là, j'ai écouté le débat entre Le Pen et Macron. Et justement, il avait commenté, en tout cas sur la politique de Marine Le Pen par rapport à l'écologie, en se basant, en se basant sur un rapport scientifique. Et donc, je pense que c'est quand même pas mal pris en compte. Après, je ne sais pas exactement.
Ok, merci.
Je suis face à un étudiant. Est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît?
Oui, je suis étudiant en classe préparatoire pour les écoles d'ingénieurs.
Ok, merci. Pour répondre aux questions, est-ce que tout d'abord tu penses que les avis scientifiques sont actuellement assez pris en compte dans les décisions politiques ?
Je pense que les avis scientifiques, c'est important dans certaines circonstances, comme par exemple, on a pu le voir pendant la pandémie du Covid ou pour l'écologie. Mais il ne faut pas prendre que en compte les avis scientifiques, parce que dans les crises politiques actuelles, il y a aussi un enjeu humain. Et il ne faut pas oublier de prendre en compte le facteur humain. Et parfois, les scientifiques ne prennent pas en compte cela, juste les faits scientifiques.
Très bien, merci. Et si devait y avoir un scientifique au pouvoir, est-ce que tu penserais qu'un scientifique gouvernerait mieux qu'un politique comme on voit actuellement?
Ça, je ne suis pas sûr, parce que, comme je l'ai dit, la science, c'est utile pour certains cas de figure, comme l'écologie ou quoi, mais le président, il n'a pas pour rôle de s'intéresser juste à ces sujets-là. Et la politique, c'est aussi les relations internationales, les problèmes sociaux, etc. Et je ne suis pas sûr qu'un scientifique soit vraiment très bien placé pour répondre à ça. Enfin, je ne vois pas dans quel cadre la science pourrait répondre à ces problèmes actuels.
Pour moi, je pense que... je pense qu'en fait, il doit y avoir une place quand même d'un avis scientifique pour prendre des décisions, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prendre. Genre, quand tu es politique, tu n'as pas un avis sur tout. Et typiquement, le Covid, genre, tu as... Enfin, on savait pas à quoi faire, et forcément, il a besoin de conseillers scientifiques, etc. Mais en même temps, après, ça peut venir devenir une technocratie où c'est juste des gens qui ont des compétences qui dirigent, et pas une démocratie où c'est tout le monde qui donne son avis, parce que c'est quand même le principe. Enfin, ça progresse comme ça, etc., et il faut des conseillers, évidemment. Mais quand ça prend des décisions trop importantes, c'est quand même un petit recul.
À mon avis, un scientifique ne pourrait pas gouverner mieux qu'un politique, parce qu'un scientifique aurait le prisme déformant de sa technicité, et ne verrait probablement les choses que sous l'angle de la technique qu'il maîtrise. Or, on demande à un politique d'avoir une vision globale des choses, le cas échéant d'avoir des conseillers techniques qu'il peut susciter, dont il peut susciter les analyses et les avis, mais la décision doit être prise en dernier ressort par le politique, qui qui est censé avoir suffisamment de hauteur, qui est censé avoir une légitimité nationale à la suite d'un vote et d'une élection, et qui est censé normalement mesurer tous les intérêts de tous les gens qu'il gouverne pour obtenir et prendre une décision optimale.
Et quelle est l'importance de la science dans la politique pour vous et actuellement, et qu'est-ce qu'elle doit être ?
Pour moi, la science aujourd'hui est devenue omniprésente dans la décision du politique, alors qu'elle ne devrait être qu'un seul facteur, qu'un seul indicateur. Une décision politique ou le fait de diriger un pays, la politique en grec étymologiquement, c'est prévoir. On demande à des responsables de prévoir demain, d'anticiper. Donc la science est un indicateur, mais elle ne peut être qu'un indicateur parmi tant d'autres. Effectivement, il y a des analyses géopolitiques, il y a des analyses mathématiques, il y a des analyses philosophiques, il y a des analyses religieuses, il y a des analyses purement politiques en termes de doctrine politique qui doivent venir et être prises en considération par le décideur politique.
Bon, bah, vous venez d'entendre le micro-trottoir et bon, je vais intervenir, mais le but de mon intervention, c'est en aucun cas de présenter une sorte d'analyse statistique de ce qui vient d'être dit, parce que ça n'aurait pas lieu, et puis on a interviewé qu'une dizaine de personnes, du coup ce ne serait pas assez pour faire une analyse. Mais j'aimerais juste résumer un petit peu quand même les idées importantes qui ont été dites, parce qu'on voit que dans un petit échantillon, il y a quand même des avis qui sont extrêmement diverses. Il y a certaines personnes qui considèrent que la science doit vraiment avoir un rôle primordial dans les décisions politiques. Elle a tout à fait le droit de pouvoir intervenir dans les décisions politiques, et notamment lorsqu'il y a eu les crises comme le Covid-19 ou là, comme on est en ce moment avec les rapports du GIEC. Il y a d'autres personnes qui pensent que la science, oui, elle a sa part de vérité, oui, elle est importante, mais elle devrait juste être une sorte d'outil sur lequel la politique s'appuie, et elle ne devrait pas être autant prise en compte qu'elle l'est actuellement. Et il y a aussi certaines personnes qui considèrent que la science, elle n'a pas du tout son rôle à jouer dans la politique, que c'est une discipline, on va dire, qui a sa place dans le monde, mais qui n'a pas sa place dans la politique parce qu'elle n'en fait pas partie. Cette analyse, elle va être un peu plus développée avec la partie d'après, puisque Simon et Quentin vont interagir dessus. Mais avant de passer à cette deuxième partie, vu qu'on est face à des étudiants étrangers, on pourrait poser du coup par exemple la question à Can. Est-ce que pour lui, en tant que étudiant vietnamien, il pense qu'un scientifique gouvernerait-il mieux qu'un politique si un scientifique devait être au pouvoir?
Merci Léa pour intéressante question. À mon avis, bien que la science et la technologie soient extrêmement importantes pour la vie humaine, un gouvernement scientifique ne peut pas être meilleur qu'un gouvernement politique. La science et la technologie est un outil que nous utilisons. Penser à manier job scientifique ne nous fait nous concentrer que sur la performance au travail. Comment améliorer les résultats prédéfinis sans trop nous soucier de d'autres choses. Mais les gouvernements et celles-ci qui guident les peuples, ces instructions contribueront à assurer la vie des peuples. Performance, les résultats ne sont peut-être pas élevés, mais ils se soucient des sentiments et des opinions des gens. Ils écoutent, comprennent et corrigent les actions de la manière la plus bénéfique possible pour les peuples, même si la seule peuple coûte cher. L'efficacité est réduite, mais le peuple sera content car le chef se soucie du cœur du peuple. De plus, un gouvernement trop scientifique aura du mal à résoudre les problèmes du peuple à cause de sa rigidité avec des pensées logiques. Un gouvernement politiquement orienté n'aura pas beaucoup de mal à résoudre ces problèmes en raison de la flexibilité dans la façon de penser des politiciens. Just boost. Faire plaisir aux gens, tout en résolvant les problèmes de manière minimale.
Merci beaucoup, Ken, pour cette intervention. On va faire un léger petit intermède et on revient. Bonjour à tous, nous sommes actuellement sur la radio Graphite 94.9 Et on est encore dans l'émission Les Échos de l'innovation avec sept étudiants de l'Université technologique de Compiègne. Avant ce petit intermède, on a pu débattre autour d'un micro-trottoir qui a été réalisé pour voir du coup les différentes pensées des personnes envers la science. Mais dans une seconde partie, ou plutôt une troisième partie même, on aimerait s'interroger sur le rôle que devraient avoir les hommes ou les femmes dans la science au niveau des décisions politiques. Pour cela, je vais laisser la parole à Simon et Quentin.
Du coup, dans cette partie, nous allons chercher à voir le rôle des hommes et des femmes de science dans les décisions politiques et de voir où leur influence devrait ou pas s'arrêter. Donc ça va un peu reprendre ce qui a été dit dans le micro-trottoir réalisé par Léa, auxquelles certaines personnes ont déjà pu répondre à ces questions. Du coup, déjà, est-ce qu'on devrait faire appel à des scientifiques dans les décisions politiques ? On fait appel aux scientifiques régulièrement. Mais du coup, qu'est-ce qu'un scientifique ? C'est finalement une personne qui se livre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes. Et du coup, ils sont appelés, souvent les scientifiques sont des experts dans un domaine. Et c'est un peu la limite finalement du scientifique, c'est qu'il est expert dans un domaine uniquement et pas dans différents domaines, contrairement au gouvernement ou aux décisions politiques qui sont prises et souvent qui répondent à une réalité qui est très complexe. Et du coup, pour répondre à cette réalité, pour prendre des décisions qui vont toucher un grand nombre de personnes, il y aura besoin d'un expert des décisions. Donc cet expert, ça peut être par exemple les membres du gouvernement qui prennent très régulièrement des décisions. Ça peut être le directeur d'une société ou ça peut être, par exemple, dans l'armée, un militaire haut gradé. Du coup, ce membre du gouvernement ou ce directeur de société, souvent, il n'a pas forcément des connaissances très pointues dans un domaine, mais plutôt, il est capable d'écouter chaque expert de son domaine et de sélectionner les informations pour prendre les meilleures décisions. Du coup, au sein du gouvernement, les scientifiques, en tant qu'experts, sont écoutés. Leur avis est forcément pris en compte et est très important, mais le gouvernement doit aussi écouter les autres avis et pour répondre à tous les enjeux. Bien sûr, l'aspect sociétal est très important. Il faut toujours prendre en compte l'avis de la population, un avis qui peut être très, très varié, très contrasté, mais toujours essayer de chercher un consensus avec la population pour prendre des décisions politiques est forcément très important, même si pas toujours très simple, on s'en rend bien compte. Au sein du gouvernement ou dans les décisions prises au niveau national, les décisions politiques, l'aspect économique est aussi forcément très important, tout comme l'aspect moral qui devient de plus en plus important. L'éthique est aujourd'hui quelque chose qui est très pris en compte et qui s'oppose parfois aux avancées de la science et du coup aux scientifiques. En effet, à l'échelle nationale, nous avons des valeurs finalement et la science qui évolue très vite peut, dans certains cas, s'opposer à ces valeurs. Les aspects géopolitiques et voilà, le gouvernement doit aussi répondre, doit aussi participer aux relations internationales et toutes ces choses, voilà, les scientifiques ne sont pas forcément les meilleures personnes pour pouvoir y répondre. Les décisions au sein du gouvernement voilà, doivent prendre en compte l'avis des scientifiques, mais ensuite forcément ça reste dans le cadre démocratique le vote qui doit déterminer comment sont prises les décisions. Donc c'est le cas dans notre République. Et au sein de l'Assemblée nationale, le but est également de faire un consensus entre différents partis, de trouver un accord entre chacun. C'est vraiment difficile parce que les avis sont très variés à l'échelle nationale, mais à l'échelle voilà, aussi dans un gouvernement, etc. Donc finalement, les avis scientifiques sont toujours écoutés, mais pas forcément appliqués. Il y a différents exemples d'avis scientifiques où les scientifiques donnent leur avis et peut-être que Quentin pourrait nous en parler.
Écoute, merci Simon pour ta partie assez précise. Moi, je vais rebondir sur écouter un peu toute l'émission. Voilà, on a pu entendre plein de choses assez intéressantes, en particulier le micro-trottoir. Moi, je vais parler de plusieurs choses qui ont été dites, en particulier lorsqu'on décide de répondre à la question sur quel rôle, quelle prépondérance doivent avoir les scientifiques dans les décisions politiques. C'est pas uniquement une question de statut. Voilà, les scientifiques ont quand même jouissent quand même d'un certain prestige, voilà. Mais malgré tout, il faut se dire que le statut doit être différencié de la connaissance auquel ils peuvent apporter. Alors, je vais m'expliquer. Grosso modo, comme l'a dit Simon, ils sont experts dans un domaine. C'est-à-dire que, est-ce que un mathématicien a véritablement serait plus pertinent sur un sujet de société qu'un autre, que quelqu'un qui n'est pas scientifique, qui n'a rien à voir avec la science? La réponse est non. Son domaine, c'est avant tout les mathématiques, dans lequel il appartient. Du coup, ça ne serait pas finalement mettre des scientifiques pour mettre des scientifiques, mais plutôt pour les capacités, les réponses auxquelles il pourrait apporter. L'exemple toujours qu'on prend, c'est la crise Covid-19. On a eu un conseil scientifique à aider le gouvernement. Je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais si on avait décidé d'appliquer un raisonnement très, très, très pragmatique, ou en mode nous avons un objectif, c'est-à-dire réduire le nombre de cas qui étaient exponentiels, par exemple au début de la pandémie, pendant les pics d'épidémie, si nous voulions réduire le nombre de cas, il aurait fallu tout simplement faire un confinement ultra strict, empêcher les gens de se voir, etc. Sauf que c'est pas forcément ce qui a été fait. Il y a eu des confinements stricts, mais il y a aussi des périodes de relâchement où les gens pouvaient aller dehors, où les masques étaient tantôt acceptés à l'intérieur et parfois on pouvait aussi les retirer. Donc vous voyez, et c'est peut-être cette façon de procéder qui a perturbé pas mal de monde. On savait que la Covid circulait, que le virus circulait, et pourtant on avait des décisions qui parfois semblaient aller à contresens. Mais il faut pas oublier que derrière une réalité scientifique, il y a des faits de société, et que finalement le confinement a été pour beaucoup quelque chose de terrible, et on n'aurait jamais pu appliquer une décision 100% pragmatique. Donc là, je rejoins de ce côté-là les avis qui ont été dits sur il ne faut pas appliquer bêtement la science, ce qu'elle dit, dans des sujets de société. La politique, ça englobe finalement, c'est très large. Si on prend la sémantique, la politique, c'est diriger la cité. Et donc, on ne peut pas simplement prendre une méthode scientifique pour diriger la cité, ça n'a pas de sens. Après, pour réagir au micro-trottoir, alors je n'ai plus son nom, mais c'était un homme qui avait dit que la science était un état de fait, un état de connaissance factuelle à un moment donné et subjectif. Alors là, c'est dommage, on peut pas lui reparler, mais si on devait décortiquer cette phrase telle qu'il l'a dite, moi je suis pas forcément d'accord. Alors oui, la connaissance qui a été créée par la science est susceptible d'évoluer, donc c'est un état de fait à un instant donné. Cependant, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit subjectif. Alors là, il faudrait revenir sur qu'est-ce qu'il a voulu entendre par subjectif. Je ne voudrais pas déformer ses propos. Mais là, ce qui est subjectif, en fait, c'est qui dépend de la vision d'une personne, à l'inverse d'objectif. Voilà. On ne peut pas donner un état de fait subjectif. C'est un peu contradictoire, puisque justement, la vérité n'est pas une vision des choses. Donc finalement, et ce qu'on dit, lorsqu'on dit, nous avons, imaginons un exemple très simple, assumé depuis longtemps et prouvé que la Terre tournait autour du Soleil, est-ce que c'est un état de fait subjectif, susceptible d'évoluer? Pour l'instant, non. C'est quelque chose qu'on a observé, qu'on a calculé, qu'on a vérifié, et tout concorde à dire que c'est bon. Cependant, d'un côté, c'est pas aussi simple, puisqu'il y a énormément de théories scientifiques qui ont été faites, qui ont été écrites et qui finalement se sont révélées complètement fausses alors qu'elles étaient vraies auparavant. C'est pour ça qu'il est peut-être intéressant de parler de paradigme scientifique. Alors, je vais expliquer rapidement ce terme. C'est qu'en fait, les théories scientifiques qui semblent se contredire en premier lieu, en réalité, peuvent très bien coexister ensemble. Je m'explique. Par exemple, le XXe siècle, ça a été un siècle d'avancées technologiques et scientifiques phénoménales. Et parmi eux, on peut citer une des théories les plus surprenantes et grandes de l'humanité. C'était celle de la relativité restreinte et générale d'Albert Einstein, qui avait stipulé, grosso modo, on ne va pas rentrer dans les détails, mais que le temps était relatif et que finalement, l'observation qu'on faisait pour les très grands objets célestes qu'on trouvait dans l'espace, eh bien, en fait, nos calculs, notre façon de raisonner ne pouvaient pas s'appliquer à ces objets. lorsqu'on voulait décrire quelque chose dans notre monde à nous, à notre échelle à nous, on utilisait voilà, la méthode, on va dire la mécanique de Newton, etc. Et puis là, ensuite, quand on appliquait cette même mécanique à des objets très très grands, et ben on se rendait compte qu'on avait des résultats complètement faux. Voilà. Et c'est pareil pour le microscopique. Alors en ce moment, la théorie, la mécanique quantique, on entend ça un peu partout, avec les ordinateurs quantiques, c'est très populaire, ça fait un peu rêver, beaucoup surprendre, mais en soi, c'est, si on devait résumer le quantique, c'est l'étude des objets microscopiques, donc à l'étude, les atomes, les quarks, etc. Donc, et pareil, la mécanique newtonienne et relative d'Einstein ne s'applique pas au microscopique. Donc, vous voyez, ces théories, entre elles, se contredisent. Et pourtant, parlez-en à un scientifique, il ne dira jamais que la théorie d'Einstein restreinte, c'est n'importe quoi, que la théorie Newton, c'est n'importe quoi, ou que la mécanique quantique, c'est n'importe quoi. Donc, finalement, on a des théories qui peuvent se contredire, mais est-ce que pour autant c'est un état de fait subjectif ? Non. Lorsqu'on fait de la science, on fait appel à un consensus scientifique. Lorsqu'on veut prouver que quelque chose fonctionne, marche, est vrai, eh bien en fait on ne se rabat pas sur une seule étude d'un scientifique, on fait appel à toute une communauté. Lorsqu'on a voulu prouver l'efficacité du vaccin Pfizer, ou de divers, on a fait appel à diverses études et on a questionner les scientifiques pour avoir un état global. Donc voilà, donc est-ce que, en résumé pour cette partie, parce que nous arrivons bientôt à la fin de notre émission, est-ce que la science pour moi est quelque chose de subjectif ? Non. Est-ce qu'il faut mettre des scientifiques et écouter ? Est-ce que la place doit être plus grande ? Il faut voir. C'est un débat que j'aimerais beaucoup aborder dans une prochaine émission. Et puis, je vais laisser la parole en toute fin à Clément. Voilà, et puis je vous retrouve dans deux semaines. À passer une agréable journée.
Et donc on en arrive à la conclusion de notre émission. Donc on a vu qu'effectivement la science c'était quelque chose de fiable, mais qu'il y avait certaines raisons qui pourraient nous amener à douter de la science. Mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est, parce qu'on a dû raccourcir un peu nos parties parce qu'on était chaud niveau timing, mais ce qu'il faut préciser c'est que la majorité des doutes contre la science, elle vient des personnes et non des scientifiques. Et là, un chiffre pour illustrer, c'est un sondage qui a été publié en janvier de cette année, et il y a quand même 82% des Français qui ont confiance dans la science. Donc ça, c'est quand même positif vis-à-vis de la science. Et concernant la deuxième partie, effectivement, la science, c'est un des aspects à prendre en compte dans la politique, mais ce n'est pas le seul. Et c'est pourquoi voir un scientifique au gouvernement, ça paraît compliqué, parce que la politique, c'est quand même un ensemble de différents facteurs, et donc il ne faut pas prendre en compte que la science. Donc voilà, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions pour nos prochaines émissions, à laisser un message sur la page Facebook ou la page Instagram de la Radio Graphite. On se retrouve dans deux semaines. Très bonne journée à vous. À bientôt sur Radio Graphite.